Bonjour à tous. On va faire aujourd'hui une petite table ronde au sein de l'hôtel Bourterouls. Et la Radio Girafe est particulièrement heureuse d'être accueillie par ce lieu aujourd'hui. On va commencer déjà notre échange. J'aimerais prendre quelques instants pour parler du lieu qui nous accueille. Donc c'est un lieu qui résonne profondément avec le sujet de cette rencontre. C'est un lieu qui a été construit au début du XVIe siècle par Guillaume le Roux, qui était le seigneur de Bourterouls. Et cet ancien hôtel, c'était un ancien hôtel particulier qui est un beau témoignage de la Renaissance à Rouen. Et depuis plus de 5 siècles, il observe la ville, ses transformations, ses bouleversements. Il a connu la guerre de 100 ans, il a connu les guerres mondiales, la Révolution française, un incendie majeur en 1770. Et malgré ces épreuves, c'est un hôtel qui demeure toujours debout, qui est portant dans sa pierre vraiment les traces, justement, du visible et de l'invisible. C'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Et car les lieux, comme les êtres humains, ont une histoire. Ils sont façonnés par les événements qu'ils traversent. Ils se transforment, se reconstruisent, conservent parfois des cicatrices. Et certaines sont visibles, d'autres plus discrètes. Mais toutes racontent quelque chose. Et cette idée, elle nous amène à une question qui est assez fascinante, c'est les blessures du passé disparaissent-elles vraiment ? Et on sait que les traumatismes, les épreuves et les expériences marquantes, elles peuvent laisser une empreinte durable dans la mémoire, dans le corps et dans notre manière d'être face au monde. Mais qu'en est-il des lieux ? Peut-on parler d'une mémoire des espaces ou parle-t-on d'une mémoire humaine ? Les murs gardent-ils une trace de ce qui s'est joué ? Et finalement, qu'ont en commun la reconstruction d'un être humain et celle d'un lieu ancien qui a traversé les siècles ? Et pour explorer ces questions, j'ai réuni en cette fin de journée, deux regards, celui d'une kinésiologue, Charlotte, que je laisse se présenter.
Bonsoir Lisa, ou bonjour.
Bonjour, bonsoir,
peu importe. Merci de me recevoir, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi je suis Charlotte Debonnet-Baron, je suis kinésiologue depuis 4 ans. J'ai deux cabinets, un situé à Barentin, l'autre situé à Tôtes. J'envisage une prochaine ouverture d'un autre cabinet dans la région d'Iépoise. Et je suis une ancienne infirmière, en fait.
D'accord.
J'ai travaillé pendant plusieurs années en hôpital psychiatrique, donc en santé mentale. Et c'est cette spécialité qui m'a envoyée vers la kinésiologie.
D'accord.
J'ai toujours été surprise, touchée, quand j'étais infirmière, par les histoires de mes patients. Et de voir à quel point ils avaient un impact en fait sur la santé physique et mentale des personnes.
D'accord. Et notre second invité, François Delaunay, je vous en prie.
Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors moi je suis géobiologue et coach phoniste. Et le géobiologue, c'est le médecin énergétique de l'habitat. Mon travail consiste à me relier avec tous les aspects invisibles de l'habitat et de rétablir l'harmonie énergétique de tous les lieux de vie.
D'accord. Eh bien, merci pour cette présentation. Moi, j'aimerais commencer par une première question. La personne, enfin, vous répondez, qui veut répondre, c'est qu'est-ce que vous entendez par le mot mémoire et qu'est-ce qu'il évoque dans votre pratique ?
Je me lance.
Je t'en prie.
Alors, en effet, nous sommes tous porteurs d'une mémoire corporelle en lien avec ce qu'on a vécu. En fait, on a une mémoire cellulaire. Tout ce qu'on a vécu est enregistré. Notre corps est comme un disque dur. Ceci est en lien, en fait, avec... Là, on va parler du corps. On a un garde du corps qui est notre système nerveux. Notre système nerveux est en fait notre garde du corps. 24 heures sur 24, il est là. Il est là pour cet instinct de survie dont on parlait tout à l'heure. Et il va envoyer des hormones. Quand il y a une situation de stress, il est là pour nous sauver. Donc, situation de stress, on va déclencher ce qu'on appelle du cortisol, de l'adrénaline dans le corps.
D'accord.
Et tout ça va impacter nos organes. Et quand il y a un syndrome de stress post-traumatique, on va pas évacuer forcément ces hormones et elles vont s'impacter dans le corps, elles vont laisser des traces. Et donc moi, en kinésiologie, le but, c'est d'aller se faire un peu détective. Les gens vont arriver, ils vont me dire qu'ils ont des douleurs, par exemple, au niveau du dos ou psychologiques, et c'est d'aller travailler sur le corps pour voir où sont restées impactées ces douleurs et avec quelle histoire, quelle est l'histoire qui est en lien avec ces douleurs.
D'accord.
On travaille en kinésiologie avec les muscles. Donc moi, je vais aller tester certains muscles du corps. Tous les muscles étant reliés à une émotion et à un organe en médecine traditionnelle chinoise. Parce qu'en kinésiologie, on travaille avec des outils de médecine traditionnelle chinoise, donc avec les méridiens d'acupuncture.
Ok. Et François ?
Alors pour moi, le mot mémoire, c'est de l'énergie.
Ok.
Et on va faire déjà un petit... une petite comparaison. Si on regarde le corps humain et si on observe le corps humain dans l'infiniment petit, c'est un ensemble d'atomes, de neutrons et d'électrons qui sont tous reliés les uns aux autres par des champs électromagnétiques. Et si on regarde l'infiniment grand de l'univers, on retrouve exactement cette même construction énergétique avec des astres qui sont tous dans un équilibre intersidéral et qui sont eux aussi reliés par des champs électromagnétiques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le même champ électromagnétique. On est tous unis par ce champ, dans le même champ, qui est un champ de vie qui donc touche nos cellules, mais touche aussi tous les aspects de l'univers. Et donc dans ce champ, il y a tout. Il y a tout ce que nous vivons. Et tout se pose, tout se génère, tout se mémorise. Nos intentions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, nos actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, tout interagit et tout, finalement, s'emmagasine dans cette espèce de grand quantum énergétique. Mmh. Voilà.
Et dans le cadre justement de la géobiologie, la mémoire, ça s'inscrit comment ?
Alors la mémoire, dans un lieu, on la mesure en centimètres.
Ah bon ?
Ouais.
D'accord.
En fait, on s'aperçoit que une enveloppe énergétique, notamment sur un corps humain, l'enveloppe énergétique du corps humain est beaucoup plus grande que son aspect physique. Elle est même beaucoup, beaucoup plus grande. C'est-à-dire que là, nous ne touchons pas.
Mais on se touche quand même.
Et pourtant, nous sommes tous reliés énergétiquement parce que nos corps énergétiques sont tous entre relations.
Ok.
D'accord ?
C'est ce qu'on pourrait appeler l'aura ? Ou pas ?
L'aura, c'est une partie. Parce que dans les corps énergétiques qui nous entourent, il y a ce qu'on appelle le corps éthérique et c'est l'aura.
Ouais.
C'est peut-être la première couche.
D'accord.
Mais il y a d'autres niveaux de corps qui composent l'ensemble de notre enveloppe énergétique.
D'accord, ok.
Et donc pour un habitat, ben il faut imaginer que c'est la même chose. Et on la mesure en épaisseur, donc c'est une donnée qu'on se mesure en centimètres. Et donc plus c'est vieux, ben plus c'est long.
Mmh. Et du coup, par rapport à l'hôtel Bourtheroune, est-ce que on capte une énergie spécifique de par son histoire ?
Alors j'ai pas fait de travail de reliance sur l'hôtel particulièrement, mais c'est certain qu'on va trouver des mémoires. C'est certain qu'on va trouver peut-être des points pathogènes si ce lieu n'a jamais été traité.
D'accord.
Même si dans sa construction il est possible et dans ses fondations il est possible que des points telluriques soient déjà mobilisés, parce qu'il faut savoir que la Terre est couverte de champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques en fait retiennent l'atmosphère de la Terre et permettent à la Terre d'être un astre où on peut vivre. Et il y a ces champs électromagnétiques, en fait, ils sont la naissance à partir de la graine qui est au cœur du noyau terrestre. Et cette graine en fusion, elle tourne sur elle-même et elle crée l'effet dynamo de l'électromagnétisme. Et il y a deux principaux, mais il y en a d'autres, mais les deux principaux qu'on retrouve partout, les deux principaux réseaux cosmotelluriques, qu'on appelle Hartmann et Curie, qui sont deux médecins qui ont découvert et qui ont observé que la présence, ou en tout cas d'être présent à proximité de nœuds énergétiques, on observait des effets pathogènes sur les humains.
Mmh. D'accord.
Et donc Hartmann a découvert en fait le réseau nickel, qui est un des composants de ce noyau, et Curie est le composant fer, qui est aussi l'un des principaux composants de ce noyau.
D'accord.
Mais il y a aussi de l'or, il y a aussi de l'argent, il y a du cuivre, et on va notamment les retrouver souvent dans les lieux sacrés.
Ok.
Et donc, ce maillage, en fait, ça crée un maillage. Toute l'émission crée un maillage sur toute la surface de la Terre, et il y a tous les points où ça se croise, où ça se rencontre, bah, c'est des, ce qu'on appelle des nœuds pathogènes. Et ces nœuds pathogènes peuvent perturber la vie, perturber le confort de vie, peuvent vous empêcher de dormir, par exemple. Peut vous générer des douleurs chroniques.
De l'anxiété, des choses comme ça.
Voilà, du stress, du stress chronique, voyez.
Ok.
Donc le métier du géobiologue, c'est de détecter tout cela.
Pour le régler.
Pour le,
l'accompagner.
Pour les, voilà, moi je déplace les réseaux avec mes mains.
D'accord.
Je les ressens dans mes mains et je les déplace. Je les mets dans les murs. Je fais comme faisaient les anciens dans les églises. Tous les anciens dans les églises, les réseaux cosmotelluriques, ils sont sous les piliers des églises. Donc ils les ont déjà déplacés.
D'accord. Et justement, du coup, vous deux, votre objectif, c'est donc d'accompagner les gens, de les soigner en quelque sorte, de les soulager, de les aider. Et en fait, on le sait tous déjà, rien que dans la psychologie, on a tous une histoire qui est ancrée, des traumatismes, des séparations, des difficultés avec les liens affectifs, des blessures, etc., qui engendrent parfois des fragilités, qui peuvent engendrer des maladies et autres. Et en fait, par rapport à ça, bon, en psychologie, on sait que ça peut être accompagné via la thérapie, toutes sortes de thérapies, par parfois des antidépresseurs ou autres, ou encore des antipsychotiques quand la pathologie est plus importante. Mais le passé, il continue à vivre en nous, au final, d'une certaine manière, quand on a... Est-ce qu'il continue vraiment à vivre en nous, même quand on pense l'avoir laissé derrière nous?
Oui, ce que tu dis est très intéressant. En effet, c'est vraiment ça. C'est comme si la personne était, c'est comme si le cerveau de la personne, le corps de la personne était tout le temps en alerte. Il y a danger, il y a danger. Donc elle vit sur le passé. Elle n'est pas dans le présent. Et quand il y a un traumatisme, alors je vais revenir à au traumatisme. Quand on, déjà, je voudrais éclairer un peu le trauma du traumatisme. Le trauma, c'est l'événement qui vient engendrer le traumatisme. On peut comparer ça au caillou qui vient impacter un pare-brise. Ça, c'est le trauma. Le traumatisme, c'est la fissure qui est sur le pare-brise, c'est la blessure.
D'accord.
D'accord. Ensuite, par rapport à un traumatisme, en effet, on va tous réagir de façon différente. Toi, tu vas être traumatisé par quelque chose, et moi, peut-être que ça va pas du tout m'atteindre. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, il y a une histoire. Il y a ton histoire aussi en transgénérationnel, ce qui a été vécu aussi par tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et ça, maintenant, c'est quand même prouvé. On porte des blessures transgénérationnelles.
Ça, c'est l'épigénétique.
Ça, c'est l'épigénétique. Exactement. Pour exemple, j'ai une cliente l'autre jour qui est venue pour une phobie de l'eau.
D'accord.
Et en fait, on est reparti dans son arbre généalogique et elle a appris que son arrière-grand-mère avait perdu sa fille de noyade et ça avait été un tabou, un secret. Elle portait, tu vois, tous ces symptômes-là. Mais ce que j'aime dire, c'est que toutes ces peurs qui sont véhiculées, on sait maintenant par l'épigénétique même que l'expression de nos gènes sont modifiées dans le corps, c'est là pour nous protéger. Le corps, il est toujours là pour nous protéger. Tout ce qu'il va mettre en place, c'est pour nous protéger. Donc ces mécanismes, j'ai perdu le fil, mais ces mécanismes qui vont impacter ensuite le corps des personnes, voilà, ça peut venir du transgénérationnel, mais ça peut venir aussi de la façon dont tu as été sécurisé dans l'enfance. Ça peut venir aussi de ton hygiène de vie. Donc moi, en kinésiologie, je vais prendre la personne dans sa globalité, je vais m'intéresser vraiment à tous les domaines de vie.
Allons de l'environnement en passant par l'histoire, par l'héritage, par...
Exactement. Donc les émotions, en effet, vont impacter le corps à partir du moment où elles restent ancrées en toi.
D'accord.
L'émotion, en latin, c'est movere. Ça veut dire se mouvoir. L'émotion, elle doit être en mouvement. Si elle reste impactée...
Elle impacte le corps.
Voilà. Le corps devient inflammatoire, en fait, et ça va laisser porte ouverte aux pathologies.
Ok.
D'accord. Ensuite, moi, j'aime bien parler du système nerveux. Je reviens à mon système nerveux, qui est notre garde du corps. Le système nerveux, il est protecteur. Il va entraîner, quand il y a un danger. Je vais prendre l'exemple, t'es en voiture, tu conduis. T'as posé ton téléphone à côté de toi sur le siège passager. Et là, tu te dis, tiens, ça sonne, maman m'appelle, je veux décrocher. Tu relèves la tête, tu vois que la voiture de devant, pile.
Pile, ouais.
Là, il y a un instinct de survie, d'accord ? Donc là, le système nerveux va s'enclencher, va entraîner cette délivrance, cette sécrétion du cortisone et de l'adrénaline pour te mettre en action. Par contre, il y a un processus. Après tout ça, toi, tu vas déjouer l'obstacle, tu vas t'arrêter sur le bord de la route, et là, en fonction de ton éducation, de tes croyances, de tout ce que tu as reçu, de ta fatigue, de ton état, de ton hygiène de vie, tu vas réagir ou tu vas garder en toi cette énergie qui est tellement puissante. Cet instinct de survie va entraîner une montée d'énergie énorme. Tu vas avoir des battements du cœur, le cœur qui s'accélère, tu vois. Tu vas ressentir des tensions dans les muscles qui vont te permettre de passer à l'action. Une fois que tout ça s'est passé, en fait, il va falloir libérer l'énergie. Si elle n'est pas libérée au moment où tu t'arrêtes, c'est-à-dire que normalement, tu es censé avoir une décharge, par exemple, tu vas te mettre à trembler, tu vas te mettre à pleurer, tu vas peut-être appeler ta maman, tu vois, tu vas communiquer, tu vas verbaliser. Si jamais là, tu prends une autre décision et tu te dis « Waouh, il est quelle heure, je vais être en retard, attends, respire un coup, je repars, allez, je reprends ma voiture », tu n'auras pas libéré. Oui. Et c'est là où après, en fait, toute cette énergie, elle va s'impacter dans ton corps. Tu as été submergé d'une charge émotionnelle très forte et ton système nerveux va se déréguler. Et moi, en kinésiologie, le but, c'est de venir apporter de la sécurité au corps et lui dire, en fait, là, tu n'es plus... Je vais rajouter quelque chose. La personne, par exemple, t'es au volant, on revient sur cet épisode-là. Peut-être que quelques mois après, tu vas venir consulter et tu vas me dire... Oh là là, j'ai des douleurs au niveau de l'épaule, je dors pas, je suis irritable, j'ai des insomnies.
Oui.
Et en fait, tu vas avoir oublié, tu vois, ce moment où ton système nerveux a bugué, d'accord ? Parce que tu n'auras pas libéré derrière. Et moi, le but en kinésiologie, c'est de ramener, tu verras que en testant tes muscles, on va revenir à cet événement. Et en fait, c'est d'apaiser le système qui est bloqué dans le passé, qui est toujours en alerte depuis cet accident, entre guillemets, d'accord ? Et c'est de ramener de la sécurité au corps. C'est passer par les points d'acupuncture, justement. Moi, je pique pas, mais c'est par l'acupression. De ramener chaque point à une signification, chaque point à une fonction sur le corps. On a plus de 360 points d'acupuncture. Donc, je vais aller en contacter certains qui vont venir renvoyer un message au cerveau en disant, par le toucher, tu peux relâcher. D'accord. Okay. Pour, si tu veux, réguler à nouveau ce système nerveux.
Ok.
J'espère que j'ai été claire.
Ah oui,
pour
moi, carrément. C'est... voilà. Mais moi, ça me fait vraiment en plus penser à un exemple personnel qui est que l'année dernière, quand mon arrière-grand-mère est décédée, j'ai eu de l'eczéma qui a... Bon, j'ai une tendance à l'eczéma, mais j'en avais pas eu depuis 10 ans. Et mon eczéma s'est déclenché le jour de son décès et a duré, dure encore, par période. Et du coup, c'est vrai que je sais que ça a été compliqué pour moi de vivre vraiment l'émotion comme... en fait, j'ai eu l'impression, c'était une des personnes les plus proches de ma vie. Et pourtant, j'ai eu cette sensation de passer un peu à côté du deuil au début. Genre, ça a été un peu particulier. Et du coup, bah, c'est manifesté dans des grattages permanents qui durent encore un peu aujourd'hui, quoi.
Le corps parle, le corps envoie des messages en permanence. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir en consultation. C'est, par exemple, tu as mal à ta cheville gauche. Eh ben, va sur Internet, tu tapes symbolique émotionnelle. Oui. Et tu vas voir, en général, ça tombe pile poil au bon endroit.
Et il y a un site où il y a une dame qui référence tous les symboliques émotionnels.
Et ben voilà. Exactement.
Et toi, François, du coup, par rapport à la question, est-ce qu'on laisse vraiment notre passé derrière nous? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, on laisse, je dirais bien plus, nous incarnons.
D'accord.
Nous incarnons ce que nous sommes avec nos blessures. Et donc, quand on s'accommode de blessures, elle vient modifier notre vie de façon inconsciente, puisque le corps s'est adapté, mais dans le lieu de vie dans lequel vous êtes, dans le lieu de vie où vous avez créé votre harmonie, puisque c'est l'endroit que vous avez choisi. C'est l'endroit que vous avez choisi pour y vivre. C'est l'endroit que vous avez décoré. Donc c'est une partie de vous. Et cette partie de vous, eh ben, elle est exactement à l'image de vous. Et notamment pour les femmes en particulier. En énergétique, j'ai toujours retrouvé la même énergie dans son habitat que sur elle.
D'accord.
Dans 100% des cas. C'est-à-dire que si une maison va mal, madame va mal.
Ok.
Et pourquoi? Parce que l'habitat, la maison, c'est comme la terre, c'est du féminin. La terre abrite la vie, la maison abrite la vie, et la femme porte la vie.
C'était quoi ça?
Et donc, il y a un alignement énergétique constant.
Ok. Et,
et donc, quand ça va pas, quand ça va pas, eh ben, il y a des choses qui vont s'engrammer dans la maison. Donc, on a parlé des mémoires, donc ça va s'engrammer dans les murs, mais ça peut aussi s'engrammer dans nos meubles, dans nos objets. Dans tout ce qui nous caractérise.
D'accord.
Et donc, on peut avoir des mémoires négatives. Et ces mémoires négatives, eh ben, elles viennent perturber l'équilibre harmonique de l'habitat.
Mais ça me fait penser à un exemple que j'ai entendu une fois. C'est une amie qui avait emménagé dans un appartement avec son compagnon. Et le propriétaire a dit que dans cet appartement, les 4 derniers couples avaient divorcé. Et ben, ça n'a pas loupé. Ils se sont séparés genre 6 mois après. Et donc, moi, je me suis dit que ça avait potentiellement un lien avec l'énergie du lieu, étant donné que il y avait systématiquement des schémas répétitifs dans cet endroit où tout le monde était en divorce et en séparation dès qu'ils emménageaient, quoi.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On pourrait faire témoigner un agent immobilier et on pourrait lui poser la question. Et je suis sûr, il y a des biens qui se vendent jamais. On peut s'interroger pourquoi il y a des biens qui se vendent jamais.
Bah oui, c'est parce qu'il se passe des trucs pas marrants, peut-être.
Et il y a aussi des biens où il y a toujours des événements comme ça, ce qu'on appelle des chronicités. Mais en fait, c'est parce qu'il s'est passé un incident dans cette maison. Et cet incident, il est tellement présent dans cette maison que toutes les personnes suivantes qui vont y vivre vont recevoir cette énergie.
Par rapport à ces schémas répétitifs, j'ai un très bon exemple qui est un film qui s'appelle « Les échos du passé ». Alors, on est allé voir ce film parce qu'on voulait aller voir à la base un autre film, mais en fait, c'était complet, donc on est allé un peu au pif. Et ce film, c'était en fait une famille qui vivait de génération en génération dans une maison. Et bah, le démarrage du film, alors mais c'est horrible, hein, ne regardez pas ce film, il est vraiment traumatisant. Et en fait, le premier drame qui se passe dans cette maison, c'est que un couple de parents pousse son enfant du toit parce qu'ils ne veulent pas qu'il aille à la guerre pour qu'il ait un handicap. Et en fait, ce traumatisme se réengendre. Déjà, là, il y a le côté peut-être dans les murs et la maison, mais aussi transgénérationnel dans le sens où c'est la même famille qui, au fur et à mesure, vit. Et jusqu'à... donc, c'est sur 100 ans. Donc, on voit toutes les histoires de ces personnes. Donc, Première Guerre mondiale jusqu'à 2020. Et 2020, il s'avère que la dernière scène... Je vous spoil, hein. La dernière scène, c'est la petite fille de la famille actuelle qui se suicide du même endroit où la personne, en 1920, a été poussée du
dans
toit.
Dans ce genre d'événement, on va parler de systémie. En fait, vous avez dans la vie, il y a trois grands principes sacrés. Le premier principe, c'est le principe d'appartenance. Vous appartenez, on appartient tous à une famille. Mmh. Et ben dans toutes les familles où vous avez de l'exclusion, on oublie des parents, des oncles, des tantes, des cousins. Il y a des conflits de famille, donc on les exclut. Bon, on fait ce qu'on appelle une blessure systémique. Je vais vous expliquer après quelles sont les conséquences.
Ok.
Le deuxième grand principe, c'est le principe de rang.
Le principe de
rang. Chacun a sa place.
Oui. Oui.
Le père est à sa place, la mère est à sa place, l'aîné ou la fille aînée, oui. Etc., le cadet, etc.
Pour les auditeurs qui ont l'habitude, on avait parlé de ça sur un épisode sur la psychogénéalogie à Noël en décembre dernier.
Et le troisième grand principe, c'est le principe d'équité. On reçoit et on donne. C'est comme la respiration. Je reçois, je redonne. Il y a beaucoup de gens dans leur vie qui passent leur vie à donner toute leur vie, qui ne reçoivent jamais.
Oui, c'est d'où les fameux syndromes parfois du sauveur qu'on appelle, ou syndrome de l'infirmière, ou ça, c'est
après,
plein d'autres choses.
Après,
plein
ça, d'autres... ce qu'on appelle des jeux psychologiques.
Oui, il y a plein d'autres choses.
Mais au-delà, au-delà de ces principes systémiques, il faut savoir que quand l'un de ces trois systèmes est blessé, on fait ce qu'on appelle une incarnation de blessure transgénérationnelle.
D'accord.
Et ça peut s'incarner dans 7 générations. Et 7 générations, c'est 200 ans.
Oui, c'est beaucoup quand même.
Voilà. Donc on peut réparer ce qu'on appelle ces blessures systémiques avec ce qu'on appelle des constellateurs qui sont spécialisés justement dans ces blessures systémiques. Et effectivement, quand on vient blesser son enfant, sa propre progéniture, finalement, pour pas qu'elle aille à la guerre, c'est-à-dire qu'on admet qu'on va lui faire du mal, vous imaginez sur le plan systémique ce que ça peut engendrer.
Oui, et puis psychologiquement, le contraste. On veut faire du mal à l'enfant pour le protéger. Enfin, c'est un peu schizophrène comme méthode. Donc c'est assez... en tant qu'enfant, ça doit être... Tu te dis, mes parents tentent de me protéger en me tentant de me tuer un peu. C'est assez particulier dans le système, pour le cerveau, quoi. Et donc dans le corps, comment est-ce que donc tu expliquais par rapport aux muscles et aux réactions musculaires, comment ça se passe en fait concrètement, parce que on a du mal à imaginer comment peut se passer vraiment la kinésiologie quand tu testes, que tu cherches finalement les réactions et les impacts des traumatismes et traumas.
Oui, alors on vient tester des muscles, comme je disais tout à l'heure. On utilise donc un outil de médecine traditionnelle chinoise en lien avec les méridiens d'acupuncture. Donc quand on teste nos muscles, on vient pas tester la force, on vient tester la résistance du système nerveux. Okay. Et en fait, on a des grilles avec des questions. Et quand on va poser une question... un accident. Là, si la personne est concernée, il y a un des muscles qui va lâcher. D'accord? En fait, quand tu es en situation de stress, potentiellement, tu as failli avoir un accident de voiture. En général, quand tu as eu un gros stress, après, tu as les jambes un peu
flagada.
Voilà. Et ben, c'est ça, en fait, qu'on va rechercher dans le muscle. D'accord? C'est la mémoire du muscle. Vraiment. C'est l'état de stress qu'on vient chercher. Et donc, chaque muscle est relié à une émotion. À un organe Et par exemple, quand une émotion est bloquée, par exemple, l'organe, le foie, c'est relié à la colère. Les reins sont reliés aux peurs et tout ce qui est peur profonde, transgénérationnelle. Donc en fonction du muscle qui va lâcher, je vais savoir si c'est un vide, un excès de peur, tu vois. Donc vraiment, c'est un travail de détective. Alors on n'est pas médium parce que parfois les gens se disent « Mais attendez, comment vous savez ça ?» Non, c'est juste une lecture du corps, tu vois, vraiment.
C'est intéressant parce que justement... Moi, j'ai fait une fois une séance de kinésiologie. Je suis sortie avec plein de choses intéressantes, mais j'ai pas tout compris.
C'est normal. C'est normal que tu ne comprennes pas.
Je me suis un peu dit, mais ok, bon.
Oui, et en plus...
Qui lui dit ? Je me suis un peu dit ça.
Ouais, et puis, alors, on travaille tous différemment en tant que kinésiologue. Et y a des gens qui ne parlent pas, qui n'expliquent pas. On a chacun nos techniques, tu vois. Donc, ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas... Voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter ? Non, c'est vraiment la puissance du corps. Le corps parle et quand il y a des traumas, pour revenir à trauma aussi, il y a ce qu'on appelle un processus aussi de dissociation entre le corps et l'esprit. Et ce qui, moi, m'a vraiment touchée en kinésiologie, c'est pour ça, enfin, j'ai eu une révélation avec la kinésiologie, c'est qu'on prenait en compte la globalité de la personne. Tu vois, vraiment, on travaille sur le corps et l'esprit. Alors qu'en médecine occidentale, par exemple, moi, je travaille en psychiatrie, on s'occupait que du mental, tu vois. Et on va aller dans un autre service, on va s'occuper du corps. Là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette approche globale, parce que tu peux pas dissocier les deux.
Okay.
En effet, le corps t'envoie en permanence des messages, il faut savoir l'écouter.
Donc le corps dit des choses qu'on ne sait pas dire, finalement.
Exactement, exactement. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose.
Non, c'est tout à fait ça. Le corps exprime ce que votre conscient n'arrive pas à exprimer. Et il exprime même contre vous.
Ah oui,
contre votre raison. Vous pouvez dire non dans votre cerveau et le corps il dit oui. Vous voyez, c'est le corps est un outil très puissant et qui exprime de façon profonde finalement ce que vous êtes en vrai. Et donc il va manifester physiquement des fois contre votre propre raison.
Finalement, le corps supprime le déni. Et peut-être que quand on se pose des questions, faut peut-être essayer de passer par le corps pour trouver des réponses.
Exactement. Et tu vois, en ce moment, il y a beaucoup de cas de burn-out.
Ouais.
Et j'en ai beaucoup en cabinet. Bon, les gens viennent nous consulter vraiment en dernier recours. Ils ont tout essayé avant.
Ah oui.
Mais si tu veux, avant d'arriver à l'état de burn-out, le corps, il t'a envoyé des signaux. Ouais. La fatigue, il t'a envoyé des maux, des douleurs. Jusqu'au moment où, en fait, on parle de burn-out quand vraiment, on dit, le burn, c'est brûler, hein. Donc, on se crame et là, le corps lâche. Le corps lâche, les gens ne peuvent pas se lever. Mais le corps, avant, il ne fait que ça, il envoie des signaux. Donc, moi, le but, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on a créé avec une autre kinésiologue des ateliers. On fait de la prévention. On va en entreprise pour sensibiliser les gens sur tous ces maux du corps, pour leur apprendre à traduire en fait ce qu'ils ressentent dans leur corps, les faire revenir au corps aussi. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on vit des traumas, et on en a tous vécu, d'accord,
bien sûr. Rien que nos ancêtres aussi.
Voilà, en plus on porte ceux de nos ancêtres. Donc on est parfois dissociés. Moi en cabinet, j'ai beaucoup de gens qui sont dissociés de leur corps, qui ne savent plus ressentir ce qu'est une émotion dans leur corps. D'accord. Donc on vient on les allonge, prennent un temps aussi pour respirer, pour revenir au corps. Parfois c'est même compliqué de demander à des gens de fermer les yeux.
Bah oui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à méditer, à respirer.
Ils sont tellement en hyper vigilance que c'est compliqué. Et de leur faire prendre conscience de chaque partie du corps, de ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que c'est lourd ? On part vraiment de ça. Hein. Ça c'est la base. Vraiment, c'est le début de la séance, quoi. Et ensuite, pour venir l'aboutissement quand même de la séance, c'est de retrouver un équilibre, c'est de libérer, c'est de faire de la place. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai aimé là, avant l'interview, c'est de nettoyer pour laisser de la place pour après, pour qu'il y ait d'autres choses qui viennent s'installer, qui puissent s'installer, une transformation. Et c'est aussi ce que j'aime dire aux personnes, c'est que des gens qui ont vécu des traumatismes violents ou même des traumatismes dans l'enfance à répétition, par exemple de la négligence émotionnelle, c'est pas parce qu'on a vécu tout ça qu'on est condamné à avoir une vie malheureuse.
Oui.
D'accord ? Après, le but, c'est de faire de la démarche de s'occuper de soi sans tomber, attention, dans l'autocentrisme, c'est pas du tout ça. C'est aller se libérer de tout ça pour faire de la place pour qu'il y ait, pour faire de la place pour autre chose, vraiment.
Et toi, François, en tant que coach euphoniste, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est ça.
Est-ce que, quelle est la place du corps, justement, dans ta pratique ?
Elle est exactement prépondérante. Finalement, quand je reçois une personne, on va s'intéresser à sa vie, à toute sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Et on va être attentif à tous les accidents de sa vie. Tous les petits incidents de parcours, les événements malheureux, les expériences malheureuses. Et on va ramener tout ça à une problématique. À la problématique de la personne, c'est qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui ?
Oui.
Aujourd'hui, c'est quoi votre problème ? Et on va traiter que ça.
D'accord.
Et en fait, on va faire comme si on épluchait un oignon. On va enlever la couche du premier problème qui apparaît, celui qui nous empêche de vivre là maintenant. Et puis une fois qu'on a mis de la paix et de l'amour ici, et ben on a ouvert de l'espace pour des choses plus grandes, pour plus de conscience. Et quand on ouvre les champs de conscience dans une personne, ben il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Et donc on va soigner et on va régler le problème suivant qui apparaît.
Parce que parfois, en enlevant les couches d'oignons, ça permet en fait de mettre justement de la place. Parfois, parce que tu dis, il y a d'autres problèmes qui apparaissent.
En fait,
c'est parce qu'ils sont pas vus et pas, ils prennent pas la place avant, c'est ça ?
En fait, on disait tout à l'heure, le corps parle, mais on a du mal à exprimer nos souffrances. Et comme on les exprime pas, par exemple, on peut dire. Quelqu'un qui est dans une situation de burn-out, j'ai raté ma vie professionnelle, je fais pas ce que j'ai envie de faire, par exemple. Mais il vous l'expliquera jamais comme ça. Il va venir, il va vous dire, j'ai du stress au travail, j'ai du mal à dormir, vous voyez. On va tourner autour du pot.
Oui.
Et c'est souvent comme ça, si vous voulez, avant d'aller au, avant que le conscient accepte d'aller au cœur des choses, au cœur de lui-même, faut passer des fois par des petites étapes intermédiaires, plus légères ou moins importantes.
Oui.
Mais c'est aussi une façon pour le cerveau de faire des apprentissages, de comprendre que ce qui a fait souffrir avant, aujourd'hui je suis un adulte, je suis grand, et je peux raisonnablement observer ce qui s'est passé sans en être affecté. Et à partir de ce moment-là, on sait ce qui s'est passé, parce que là, on dit encore une fois, il s'agit pas d'enlever l'histoire, il s'agit juste d'être en paix avec son histoire.
Oui. C'est quand même être en paix avec son histoire, c'est quand même une forme de, pas de réécriture de l'histoire, mais finalement de réinterprétation de sa propre histoire, quoi.
Non, c'est, non, pour moi, c'est apprendre à être ce que nous sommes vraiment.
D'accord.
C'est finalement comprendre que toutes nos histoires malheureuses nous ont conditionnés, nous ont fait faire des choix qui n'étaient peut-être pas ceux que nous aurions fait si nous étions en pleine conscience de ce qui nous sommes.
D'accord.
Et donc, moi je dis plutôt, c'est s'offrir la chance d'être soi-même.
Et comment on fait ça ? C'est une large question.
Eh bien, on le fait, on démarre souvent comme ça par une anamnèse qui est assez longue. Où on va vraiment aborder l'histoire de la personne et on va connaître un petit peu sa vie. Et à chaque fois, on va interroger sa vie sur l'ensemble de ses centres. Son centre intellectuel, son centre émotionnel, son centre physique. On va interroger toutes ses manifestations dans toute son histoire. Et à partir de là, on va établir ce qu'on appelle un profil psychologique. Qui s'appelle un énéatype.
Ok.
Donc, vous connaissez peut-être pas la psychologie de l'énéagramme. En fait, dans ce qu'on appelle la création humaine, vous avez 9 énéatypes qui obéissent à toutes les grandes caractéristiques psychique, émotionnel de l'être humain. Vous en avez trois qui sont de type intellectuel, trois de type émotionnel et trois de type physique. Et qui font appel chacun à une partie de notre cerveau. Les physiques, par exemple, font appel plutôt à la partie limbique de leur cerveau, qui est la partie reptilienne, la partie reptilienne du cerveau, et c'est là où est le siège des manifestations physiques, mais aussi de l'énergie sexuelle, par exemple.
Oui.
La partie limbique, donc ce qu'on appelle les côtés du cerveau, on va aborder tous les aspects émotionnels. Okay. Donc il y a des gens qui travaillent plus avec leur partie limbique que leur partie reptilienne. Et vous en avez d'autres aussi, à contrario, qui travaillent de façon tout à fait intellectuelle, qui ont le néocortex très développé et qui utilisent peu le reste. Alors c'est pas tranché comme ça. Hein. Il y a des nuances, tout est interrelié. Mais il y a toujours un dominant. Et comme toute caractéristique psychologique dominante, vous avez ce qu'on appelle les qualités, mais il y a aussi les points faibles, les passions. Qu'est-ce qui se passe quand ça dégénère?
Vous voyez?
Ben ça, on va le retrouver notamment dans ce que va nous expliquer la personne lors de l'échange. En fait, c'est lors de cet échange qu'on va détecter si c'est plutôt un énéatype physique, émotionnel ou intellectuel.
Ok. Voilà. Et ça, c'est vraiment grâce aux questions, à l'approfondissement et l'apprentissage de la personne, finalement,
c'est ça.
Que tu peux définir ces énéatypes.
C'est ça.
D'accord.
En fait, les techniques que j'utilise sont de la médecine ayurvédique,
d'accord.
Du taoïsme, donc de toute la partie, on va dire, du nord de la Mésopotamie. Du soufisme et par des techniques à la fois énergétiques, des techniques manuelles et vertébrales, du yoga, de la respiration.
Ouais.
En fait, on va aborder différentes techniques où on va accompagner la personne à développer ces techniques pour elle, pour se soigner elle-même en auto-guérison.
Ok. Je pense, ça me fait penser du coup à une technique qu'on a beaucoup, enfin, on a pas mal entendu parler ces dernières années, c'est la Kundalini. Ça a bien marché sur les réseaux sociaux parce qu'on voit les gens vibrer et qui libèrent leurs émotions. Est-ce que par exemple, tu utilises ce genre de pratique ou pas ?
Non, pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que les personnes retrouvent leur équilibre.
Ouais. Ok.
C'est qu'ils rentrent
dans la quête de toute une vie, finalement.
C'est le chemin de notre vie.
Oui, c'est ça.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois qu'on a réglé nos problèmes inconscients, on peut se donner l'opportunité d'être nous-mêmes et de réaliser enfin sa vie.
Ouais.
Voyez.
Si on peut le faire un peu avant.
Et toutes les questions d'énergie. Hein, faut savoir que dans toutes les parties humaines, il y a un centre émotionnel inférieur, il y a un centre émotionnel supérieur. Il y a un centre intellectuel inférieur, il y a un centre intellectuel supérieur. Il y a un centre physique inférieur, il y a un centre physique supérieur. Et on peut à chaque fois, par la conscience de ce que nous faisons, prendre conscience de notre respiration, prendre conscience de ce que nous mangeons. Quand nous mangeons, ça n'a pas du tout la même valeur énergétique que d'avaler un truc quand vous regardez votre téléphone. Et donc, pour votre corps, vous n'allez pas enseigner le même message énergétique. Vous voyez ?
Ok.
Et donc, c'est la somme de ces petits moments de conscience, finalement, qui fait qu'on apprend à être ce que nous sommes, à redonner la place au cœur. On dit souvent, le cœur sait, le cerveau pense, mais le cœur sait.
Le cœur et le corps, maintenant, on peut dire aussi.
Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones du cœur, puisqu'on sait qu'il y a des neurones dans différents organes maintenant, la fréquence d'échange des neurones du cœur est 400 fois supérieure à celle du cerveau.
Ah oui.
Aux neurones du cerveau, oui.
D'accord. Ah, je savais pas. Hein. Et là, juste pour revenir plus sur les lieux.
Oui.
Parce qu'on a parlé beaucoup de cicatrices, de blessures, de traumas. Il y a des lieux où parfois on se sent...
Mal.
Non, j'allais dire l'inverse, bien.
Oui.
Est-ce que ces lieux, c'est des lieux où il y a eu des manifestations positives, des événements positifs et que ça a impacté l'énergie du lieu positivement?
Oui. Hmm. Oui, tout à fait. Les lieux où vous vous sentez bien, ce sont des lieux où généralement... Il s'est plutôt passé des événements heureux.
Heureux. D'accord. Et justement, dans le transgénérationnel, là, je pose vraiment la question à vous deux. Est-ce que si, par exemple, toutes les familles ont des difficultés, des histoires, des traumatismes, etc., mais il y a parfois des familles qui vivent des choses plus positives ou des gens qui ont des choses très positives qui marquent, est-ce que cette joie ou alors cette résilience peut marquer aussi de génération en génération?
Bien sûr. Oui, oui. C'est dans les deux sens. Le positif comme le négatif. Là, on parle plus du négatif, mais il y a du positif aussi.
Mais c'est important de le mettre en avant aussi.
En fait, on est, comme je disais tout à l'heure, on est dans un quantum énergétique. Et ce quantum énergétique, vous avez tout dedans. Le bon et le moins bon. Donc, en fait, ce qui nous est offert, c'est le choix. Ce qui nous est offert, c'est le choix. De choisir si on a envie d'être bon ou pas bon.
D'accord. Ça me fait penser... J'aime bien raconter des anecdotes. Ça me fait penser que, du coup, moi et mon héritage est lié à l'esclavage. Et donc, pendant le Covid, il fallait s'occuper. Mon père a fait l'arbre généalogique jusqu'au premier esclave affranchi, dernier esclave finalement. Et en fait, les choses évoluent très récemment. Donc, il a fait ça donc jusqu'à 1700. Et il s'avère que cet homme a été libéré par ses maîtres avant l'abolition de l'esclavage, qu'il avait un travail, qu'il avait de l'argent et qu'il a payé la libération de sa femme. Et en fait, c'est assez rigolo parce que mon père, c'est quelqu'un qui s'est toujours débrouillé, qui s'est toujours battu pour ses objectifs, etc. Et en fait, dans leur histoire, du moins de ce qu'on interprète de leur histoire, parce qu'on n'y était pas, il y a énormément de points communs entre ce premier homme libéré avant... Et mon papa. Et en fait, on a appris ça récemment parce que grâce à cette enquête cette enquête sur Généanette, on a découvert une cousine qui avait les documents d'affranchissement.
Génial.
De cette esclave qui s'appelait Joseph et qui a été libérée. Bien avant. Et en fait, en termes d'héritage, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que j'ai deux origines, Guadeloupe, Martinique. Donc, mon père, c'est de la Guadeloupe, ma mère, c'est de la Martinique. Et du côté Guadeloupe, il n'y a jamais eu de rancune ou de ultra black power ou de, de rapport à compliqué à l'esclavage. Mmh. Du côté Martinique... C'est la guerre, enfin vraiment, ils sont en militantisme 200 ans encore après, enfin c'est vraiment... Et du coup c'est assez rigolo, de par cette histoire qu'on découvre et qu'on a découvert, de voir en fait finalement qu'il y a une forme de paix vis-à-vis de tout ça, d'un côté, et pas du tout de l'autre. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et je tenais à la partager parce qu'en fait cette actualisation a eu lieu ce week-end, les documents... de l'affranchissement et je trouve que c'est hyper riche de savoir ça et en fait ça permet aussi de parce que moi en tant qu'enfant des deux côtés donc les deux histoires et les deux rapports c'est aussi un peu un entre-deux en termes de transgénérationnel qui peut être compliqué qui peut être mais qui est aussi hyper intéressant à savoir aussi quel choix on fait finalement.
C'est exactement cela.
Et puis moi je trouve que enfin moi j'ai fait mon choix mais je trouve que c'est riche quoi.
C'est très riche et c'est nous rappeler que nous avons le libre arbitre et ce libre arbitre nous sommes les seuls à l'avoir.
Tout à fait.
Sur Terre, nous sommes la seule espèce à avoir le libre arbitre. Et on ne l'utilise pas assez.
Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est mais en même temps, le libre arbitre, c'est tellement. Enfin, aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui s'associe pour moi beaucoup à l'esprit critique. Parce que c'est faire preuve d'observation, d'analyse, etc. Avoir de l'esprit critique dans une société où les médias prennent beaucoup, beaucoup de place et où on nous dit noir et blanc dans la demi-heure et qu'après on nous dit bleu, rose, violet et que, en fait, toutes les informations, tout est oppressant, stressant et c'est compliqué aussi parfois de pas être influencé, de pas être influencé en fait, tout simplement parce que justement moi c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait cette chronique, pour mélanger plein de gens, pour questionner plein de points de vue aussi, pour justement que chacun se pose ses propres questions, parce que c'est pas être le résultat finalement de ce qu'on voit et de ce qu'on lit et de ce qu'on entend, c'est pas du tout porteur. Faut savoir aussi observer, se questionner et comprendre. Et pour ça, faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est compliqué ces dernières années dans notre
savoir
monde.
Savoir ce qui nous fait du bien et voilà. Le libre arbitre et savoir mettre à distance aussi ce qui peut être toxique.
Ouais.
Voilà, de mettre pause, de faire pause.
Ouais. Tout à fait.
Parce que ça fait partie aussi du bien-être de parfois mettre les médias un peu à distance.
Mm. Oui, c'est quand on décide de changer ses comportements, c'est aussi abandonner des choses.
Ouais.
Et abandonner des choses, c'est abandonner des comportements, c'est abandonner aussi peut-être des manies, peut-être. Et donc, oui, ça nous oblige.
Et mettre en place autre chose, écouter les podcasts de bien-être.
Voilà. Et pour terminer, pour qu'on clôture, j'aimerais vous poser une question. C'est quel message, là, vous aimeriez transmettre à quelqu'un qui porte aujourd'hui des blessures invisibles ou visibles, hein, parce que toi, on vient de voir plus pour des choses visibles, finalement, qui découlent de plein de choses invisibles, mais toi aussi. Donc, quel message vous aimeriez partager ou transmettre ou... À vous.
Bien, écoutez, pour terminer, déjà, il faut savoir que plus de 85% des lieux de vie ne sont pas traités énergétiquement. Donc, il y a un travail énorme à faire d'harmonisation. La seule chose que je veux transmettre, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances et on est beaucoup plus ouvert à ces choses-là. Et donc, c'est, je dirais simplement cela, c'est offrez-vous l'opportunité d'être vous-même.
Merci.
Oui, et moi je dirais, ne reste pas avec ta souffrance, libère-toi parce que c'est possible, il y a des choses qui existent maintenant en 2026, il y a plein d'outils thérapeutiques qui n'existaient pas avant, maintenant c'est plus tabou de prendre soin de sa santé mentale et physique.
Et énergétique. C'est de moins en moins tabou, ça l'est peut-être.
Exactement,
un peu plus
il existe même des outils que je ne connais pas, maintenant il existe tellement, mais allez-y, testez, juste testez, pour trouver de l'apaisement. Et la paix, comme tu disais, dans votre cœur, c'est tellement important. Ne restez pas comme ça. Il y a de la place pour autre chose. On n'est pas condamné à rester, à vivre comme ça, avec une souffrance pareille.
Donc faire des choix, trouver son chemin et ne pas rester dans la souffrance. Donc ce soir, on a exploré quand même plein de choses. Les lieux, les humains, le corps, l'esprit, le sol. Non, je rigole. À tel point que le plafond nous est tombé sur la tête. Parce que pour ceux qui ne nous voient pas, il y a eu une petite explosion du plafond en verre qui se trouve au-dessus de nous. Rien de grave. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus partager vos savoirs. Et puis, on se retrouve sur la Radio Girafe pour partager encore à plus de monde. Merci beaucoup.
Merci.